Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Sergio Coronado, ancien député écologiste. Bonsoir.
Bonsoir.
Sergio Coronado, la majorité a voté la semaine dernière pour le texte renforçant les principes républicains. D'une manière générale, qu'est-ce que vous pensez de ce texte qui va maintenant être examiné au Sénat ?
Je pense qu'il s'agit en fait d'un texte diversion en fait, qui correspond à une stratégie gouvernementale que l'on voit se déployer désormais depuis un certain temps. À la fois par les propos tenus par le ministre Blanquer, par les propos également du ministre Gérald Darmanin, et dernièrement par celle qui est en charge des universités et de la recherche, Madame Vidal. C'est-à-dire que ce texte vise à faire la cour à l'électorat d'extrême droite. C'est une façon de trianguler, comme on dit depuis Nicolas Sarkozy. Pour parler plus trivialement, c'est une forme de braconnage sur les terres de l'extrême droite. Ce n'est pas du tout un texte qui vise finalement réellement à s'attaquer au phénomène de radicalisation qui peut concerner une partie de la jeunesse. Je rappelle quand même que la lutte contre le terrorisme a fait l'objet depuis des dizaines d'années de dispositifs législatifs réguliers. On est à la 40e loi, je pense. Et que quand on vise cet objectif-là, il y a des outils dont il faut à la fois faire l'évaluation et puis renforcer les dispositifs. Je veux parler par exemple de la loi renseignement qui avait été votée sous le quinquennat de François Hollande. Je veux parler également des moyens alloués à l'école, si vous voulez détecter à un moment donné des comportements ou des attitudes qui peuvent inquiéter la communauté scolaire. Il faut pour cela à la fois des surveillants, des psychologues, des orientateurs, ceux dont l'école manque cruellement aujourd'hui. Il y a également, vous le savez, depuis un certain nombre d'années, des programmes de déradicalisation dans notre pays. Il faudrait peut-être en faire l'évaluation pour savoir si ces programmes-là sont efficaces et dans quelle mesure ils le sont. Moi, je retiens en fait de ce débat à la fois le déchaînement de propos de stigmatisation à l'égard de nos compatriotes musulmans, la place absolument effarante occupée dans la période par des discussions de comptoir autour du voile, et puis aussi, avec beaucoup de solennité et d'inquiétude, les réserves, voire les oppositions très vives du monde associatif, puisque c'est un texte qui s'attaque très directement aux libertés associatives, avec un contrôle accru, un contrôle politique sur les activités des associations, et je crois que c'est inquiétant. Au nom de la défense de la République, on s'immisce en fait dans les activités, et je prendrai pour exemple l'intervention de Charles de Courson. Est-ce que, par exemple, une association qui conteste des mesures prises par le gouvernement, qu'elle soit écologiste ou qu'elle soit, par exemple, de défense des droits humains et qui conteste des mesures mises en place par ce gouvernement fera l'objet de financement ou pas de la part des collectivités territoriales. Il existe aujourd'hui des contrôles à la fois dans les mairies ou par le préfet. Et je tiens également à rappeler les inquiétudes très grandes exprimées par les différents cultes, à la fois catholiques, protestants, juifs et musulmans, à l'égard de cette loi. Voilà, je pense que c'est une loi de diversion. Qui vise à montrer que, comme tant d'autres en fait, le macronisme court aussi derrière l'extrême droite et n'est plus un rempart mais plutôt un tremplin.
Alors quand on regarde le détail des votes, Sergio Coronado, l'ensemble des députés de la France insoumise a voté contre ce texte, alors que la moitié des députés communistes a préféré s'abstenir, 28 députés du groupe socialiste se sont abstenus, un seul a voté contre, Régis Joannicot, qui est rattaché au parti Génération. Vous qui avez été député, qu'est-ce que cela signifie de s'abstenir lors d'un vote solennel ? Comment interprétez-vous ces abstentions à gauche ?
J'allais répondre à votre question par une autre question. Est-ce que ça vous étonne vraiment, en fait ? Ou est-ce que c'est une question rhétorique ? J'ai connu en fait ce type de vote surprenant où l'on attend une sorte d'opposition massive de la part de la gauche, une sorte de finalement de sursaut moral. Je veux parler du vote sur l'état d'urgence en fait, où on pouvait considérer que les 12 jours qui avaient été décrétés en Conseil des ministres par le président de la République de ce dispositif extrêmement attentatoire aux libertés étaient suffisants. D'ailleurs, à l'époque, les responsables du renseignement nous disaient que ce qui comptait dans un dispositif de cette nature-là était l'effet de surprise, en fait, et que donc, au bout de 12 jours, cet effet-là s'est considérablement émoussé, tapi, en fait. Et pourtant, nous avons eu un Parlement unanime, gauche-droite compris, à l'Assemblée et au Sénat pour voter cet état d'urgence dont on sait aujourd'hui qu'une très grande partie des dispositifs les plus coercitifs ont été intégrés dans le droit commun. Ben là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que devant cette espèce de cynisme en marche, de politique du clin d'œil à l'extrême droite et de fabrication de l'opinion, en fait, hein, parce que vous connaissez la situation que nous vivons aujourd'hui après cette crise sanitaire, l'explosion de la pauvreté en France, on est à peu près à 10 millions de pauvres aujourd'hui, un chômage qui ne cesse d'augmenter, une partie du tissu économique qui est en très grande fragilité, le secteur de la culture qui est à la fois employeur de beaucoup de compatriotes, mais également producteur de richesses, est aujourd'hui dans une difficulté majeure. Ces difficultés-là, ces défis-là, où le défi climatique ne font pas l'objet de la mobilisation de l'exécutif et ni du Parlement. C'est des lois d'affichage sans efficacité réelle qui visent simplement à construire un imaginaire, et devant cette finalement manœuvre, il se trouve qu'une partie de la gauche se laisse piéger aisément, et au lieu d'avoir un sursaut à la fois politique et de dignité et de dire à un moment donné ça suffit. Ça suffit d'instrumentaliser une partie de nos compatriotes, ça suffit de faire du foulard, du voile, le cœur même de nos discussions depuis des dizaines d'années, ça suffit. Il est temps de nous attaquer aux véritables problèmes que rencontrent nos compatriotes, que rencontre le pays. Je suis triste de constater en effet que ce sursaut-là n'est pas venu en dehors de la France insoumise, comme vous l'avez rappelé, qui a été unanime à voter contre le texte. J'espère qu'au Sénat, le groupe écologiste nouvellement créé sous la houlette d'Esther Benbassa tiendra ferme sur ses valeurs. Et je regrette en effet, et c'est une grande déception, et notamment pour les parlementaires communistes de la Seine-Saint-Denis, de constater par exemple que quelqu'un que j'apprécie par ailleurs, comme Marie-Georges Buffet ou Stéphane Peu, ait pu se laisser à ce point convaincre qu'il n'était pas urgent de voter contre un texte de cette nature.
Alors Sergio Coronado, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, sur CNews. Selon elle, ce qu'on observe dans les universités, c'est qu'il y a des gens qui peuvent utiliser leur titre et leur aura pour porter des idées radicales ou pour porter des idées militantes. Voilà, ça c'est sa citation. Et elle précise ensuite sa pensée en parlant d'islamo-gauchisme. Et elle a réclamé une enquête du CNRS, ce qui a entraîné une vive polémique. Que vous inspirent ces déclarations, notamment sur le fond? Est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce qu'elle dit, ou bien c'est uniquement une question de diversion?
Il y a une part de vérité dans le sens où ce mot valise qui a été forgé par Taguieff lorsqu'il tentait de caractériser, selon lui en tout cas, des rapprochements qui auraient lieu entre la gauche radicale ou l'extrême gauche et le mouvement palestinien, pour mieux le dénoncer. Finalement, cette expression qui est devenue une sorte d'opprobre, de mot valise pour refuser tout débat et en tout cas tenter d'anéantir, c'est ceux qui aujourd'hui s'inquiètent de la situation qui est faite à nos compatriotes musulmans, de la place prise par cette espèce d'obsession à l'égard de l'islam, et cette tentation grande d'une partie des élites de confondre islam, djihadisme, islam politique, enfin dans une espèce de mélasse sans nom. Ce mot valise est devenu une sorte finalement d'injure en fait, qui vise à clore le débat. Moi je note les déclarations à la fois de la conférence des présidents d'université extrêmement claires, qui sont un désaveu flagrant des propos de la ministre, une condamnation de sa sortie, enfin sa sortie à la fois à l'Assemblée nationale, mais surtout cette espèce de propos de comptoir qu'elle a tenu devant Jean-Pierre Elkabbach sur la chaîne d'extrême droite CNews. Et puis je note également la déclaration très ferme de condamnation du CNRS, qu'elle voulait charger d'une enquête administrative, d'une enquête de police de la pensée, à vrai dire. Il n'y a pas de réalité scientifique à ces propos de comptoir, à ces propos qui désormais sont utilisés très régulièrement depuis des dizaines d'années, enfin depuis plusieurs années en tout cas, par l'extrême droite et par une partie de la gauche très identitaire, hein, Manuel Valls ou Caroline Fourest. Pas de réalité scientifique, mais en tout cas une visée politique à chaque fois la même, c'est-à-dire de délégitimer celles et ceux qui fondent la lutte antiraciste une priorité, celles et ceux qui considèrent qu'il y a depuis des dizaines d'années dans notre pays une obsession qui se traduit par une stigmatisation récurrente à l'égard des Français de confession musulmane. Et dans ce débat-là, je crois que cette ministre-là, mais elle n'est pas la première, Blanquer avait déjà utilisé des propos similaires, non seulement s'est décrédibilisée, mais je crois qu'elle a mis en lumière cette stratégie assez cynique d'ailleurs, pour être dénoncée dans un éditorial du Monde, d'Emmanuel Macron, c'est ce fameux en même temps, c'est-à-dire que il joue avec ses ministres à braconner sur les terres de l'extrême droite. Hein. Ses ministres, en fait, quand ils interviennent, on se doute bien qu'ils n'interviennent pas de leur propre chef. Il y a eu un moment donné de la crise sanitaire où le président avait interdit à ses ministres de prendre la parole. Il avait été parfaitement suivi. Pas un ministre, en dehors du ministre de la Santé et du Premier ministre, n'avait était dans une matinale où on avait répondu à des questions de journalistes. Et là, en l'occurrence, de manière assez régulière, un nombre très identifié de ministres, alors c'est Darmanin, Blanquer, Chiappa, Vidal aujourd'hui, sur ces questions-là, reprennent les mots, les thématiques, le lexique de l'extrême droite. Ça permet ensuite à Emmanuel Macron de les recadrer, entre guillemets. Mais enfin, c'est une stratégie du en même temps qui commence à devenir très visible, très palpable et qui est très inquiétante. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, qui s'était présenté en 2017 comme le rempart contre l'extrême droite, est désormais une sorte de tremplin. Il est le vecteur de la banalisation de l'extrême droite. Et on le voit dans cette émission organisée par le service public entre Gérald Darmanin et Madame Le Pen, où le ministre de l'Intérieur finit par dire à Madame Le Pen, vous êtes trop molle. Voilà où on en est.
Alors, vous avez fait référence, Sergio Coronado, à un éditorial du journal Le Monde. Dans cet édito, Le Monde estime qu'en lançant des polémiques comme celle sur l'islamo-gauchisme, Emmanuel Macron risque de conforter la fraction non négligeable des électeurs de gauche tentés par l'abstention en cas de duel Macron-Le Pen. C'est une opinion que vous partagez? Il y a un risque d'abstention des électeurs de gauche en cas de nouveau duel Macron-Le Pen?
C'est difficile de prévoir les comportements électoraux. Je n'ai pas de certitude sur ces questions. Ce que je constate néanmoins, c'est que en 2017, pour un certain nombre d'entre nous, comme je l'ai dit à l'instant, Emmanuel Macron représentait non pas un vote d'adhésion, non pas un vote de sympathie, non pas un vote d'approbation, mais simplement le bulletin qui permettait de dire nous ne souhaitons pas que Marine Le Pen se retrouve aux portes du pouvoir ou qu'elle ait une chance quelconque d'être élue présidente de la République. En 2000, le 21 avril, en fait, en 2002, ce choix-là avait conduit en fait à privilégier le bulletin de Jacques Chirac. Je me souviens, j'étais responsable de la campagne de Noël Mamère et nous avions dit à l'époque, non pas que nous appuyions uniquement à voter contre l'extrême droite, mais qu'on allait se servir du bulletin de Jacques Chirac pour empêcher l'élection de Jean-Marie Le Pen. C'est à peu près la même chose qui s'est passée en 2017. Et force est de constater que ce raisonnement-là, aujourd'hui, il a un peu du plomb dans l'aile. Quand vous regardez les politiques qui sont mises en place depuis le départ, par exemple, la loi Asile-Immigration, je pense que le Front National n'aurait pas fait mieux. On a même autorisé dans la loi l'enfermement des mineurs. Quand on regarde plus récemment la loi de sécurité globale, avec l'interdiction, ou en tout cas la fragilisation de la liberté d'informer, et notamment de pouvoir couvrir correctement les manifestations, et notamment les violences policières, les poursuites qui sont engagées aujourd'hui contre les manifestants. Je rappelle qu'au moment des Gilets jaunes, une loi a été votée également qui rend le droit de manifester beaucoup plus restreint que celles et ceux qui décident d'aller dans la rue pour finalement faire valoir leur opinion courent aujourd'hui le risque d'être embarqués pour outrage. Il y a toute une série de dispositifs coercitifs qui ont été autorisés. Et quand on voit le vote de la loi séparatisme, on se dit en effet qu'il y a une forme de confusion qui est alimentée par le pouvoir lui-même et qu'on ne sait plus très bien distinguer ce qui serait l'extrême droite de la droite extrême. Et que lorsqu'il y a ce type de situation où la confusion règne, l'électeur peut aussi se perdre, en effet.
Sergio Coronado, parlons des étudiants dont la précarité inquiète beaucoup. Le magazine Brut a filmé les files d'attente impressionnantes d'étudiants venant chercher de l'aide alimentaire à Paris. Ça devrait être la priorité des priorités aujourd'hui.
Vous dites la situation des étudiants, leur précarité inquiète. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'elle inquiète beaucoup celles et ceux qui sont responsables de la vie étudiante. Madame Vidal a été, depuis le départ de la crise sanitaire, alors que les universités ont été fermées. Je rappelle quand même que dans le monde étudiant, les classes préparatoires, on est parfois 40 dans des petites salles mal aérées, je le dis volontiers, parce que je suis passé par cette filière, donc, et où on passe beaucoup de temps ensemble, parce qu'on a de nombreuses heures de cours, ou les BTS. Ces cours-là ont continué sans difficulté depuis la crise sanitaire. Aucune classe préparatoire n'a été fermée, je vous le rappelle. En revanche, les étudiants universitaires sont les mal-aimés de ce gouvernement. Et donc, elle n'a pas eu de déclaration à leur égard, il n'y a pas eu de dispositif. Je sais que les initiatives qui ont été prises, elles l'ont été, en fait, uniquement du simple fait de la volonté propre des universités. Je rappelle, par exemple, qu'à Lille, deux ou trois d'ailleurs, là où Sandrine Rousseau, une amie écologiste et vice-présidente, l'université a organisé la distribution à très bas prix, à très bas coût d'ailleurs, pour les étudiants de denrées alimentaires. Et donc on le voit aujourd'hui, il y a des décisions qui ont été prises, qui sont arrivées très tardivement, par exemple sur les repas à 1 euro. Mais on paye une situation qui était prévisible. Je rappelle que ce gouvernement avait commencé par une attaque en règle de la condition étudiante avec la baisse des APL. Et que depuis, alors qu'il se pose le débat sur les conditions de vie, les conditions de survie même de la jeunesse, avec ce débat récurrent sur l'ouverture d'une sorte de RSA pour les 18-25 ans. Je rappelle quand même qu'à 18 ans, vous êtes majeur, que vous êtes électeur, que vous êtes passible d'être jugé par un tribunal ou une cour d'assises avec la même gravité, la même sévérité que tout adulte, vous n'êtes pas tout à fait un sujet de droit social, ou en tout cas, vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres citoyens. Donc, face à ce débat, que fait le gouvernement? Je rappelle qu'il y a eu à l'Assemblée un débat la semaine dernière d'ouverture du RSA pour les moins de 18 ans. Bah, c'est la porte fermée sans cesse, en fait, hein. C'est le mépris à chaque fois, c'est que quand vous entendez Bruno Le Maire ou d'autres membres du gouvernement, on vous parle d'assistanat. Personne ne souhaite que la jeunesse soit dans une situation d'assistanat. Ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a une situation de survie, de dignité même. Quand vous trouvez des files comme celles que nous voyons en région parisienne, de centaines d'étudiants qui attendent dans le froid pour ramasser un colis alimentaire parce qu'ils n'ont plus les moyens de se nourrir, je crois qu'on n'en est plus à des débats idéologiques. Il y a une urgence, il y a une urgence sociale, il y a une urgence à l'égard de la jeunesse, et des dispositifs provisoires pourraient être mis en place. Ce n'est pas la priorité de ce gouvernement, nous l'avons compris, mais je pense qu'en effet, c'est une décision politique qui paiera cher.
Merci Sergio Coronado. Je rappelle que vous êtes ancien député écologiste. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.